finir mon petit morceau d'histoire. Alors, mon petit morceau d'histoire qui disait que voilà, on était une petite bande à avoir débarqué au Far West et puis avoir sympathisé avec les copains-copines qui habitaient à ce moment-là à la chèvrerie, qui avaient déjà construit une bonne partie de la chèvrerie, qui avaient déjà aussi fait en sorte qu'il y ait un troupeau, un petit troupeau qui existe, qui était que de 9 chèvres à cette époque-là. Et nous, on s'est dit, ouais, c'est trop cool de faire du fromage, etc., etc. Donc, on s'est mis à faire des trucs avec eux, toute la petite bande du Far West qui était fraîchement arrivée sur la zone. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, pendant pas mal de temps, on a fait vivre cet espace tous ensemble. Il y a une yourte, il y avait 3 caravanes sur l'espace. On a construit une salle de traite, on a construit une salle pour les bébés qui malheureusement se font séparer de leur maman, sinon on n'a pas de lait. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé entre nous, toutes et tous. Et à un moment, le Phénix s'est ouvert dans l'année qui a suivi. Et étant donné que les gens qui vivaient là, à la chèvrerie et qui ont inventé la chèvrerie, avaient déjà un enfant et ont eu un deuxième enfant par la suite et qu'ils ont déménagé un peu, on les a envahis aussi, j'avoue, dans cet espace. Mais pour eux, c'était beaucoup plus confortable d'habiter dans une maison. Du coup, ils ont squatté le Phénix. Et c'est à ce moment-là que le Phénix a existé, qui ne s'appelait pas le Phénix à cette époque, ça s'appelait juste la maison des Ardillères parce qu'elle est aux Ardillères. Et voilà, et dans cette maison, on a fait la salle de transformation pour le fromage. Pour finir la première étape de la chèvrerie, qui effectivement, après le copain est arrivé juste après, que la chèvrerie, le délire des chèvres, etc., ça s'est arrêté pendant l'opération César, où comme toutes nos chèvres, c'était des chèvres récupérées de par-ci, par-là, du sud de la France, d'un peu partout, et qu'aucune n'était pucée, aucune n'était... aucune n'était déclarée aux normes. Et du coup, au moment de l'opération César, on a pris l'initiative de mettre toutes les chèvres à l'extérieur de la zone. Et voilà, du coup, on a un peu comme abandonné cet espace qui, du coup, pendant les expulsions, a servi d'espace de refuge pour plein de gens. Et ensuite, la suite est arrivée, quoi.
Quand les personnes qui ont fondé la chèvrerie sont parties, on s'est implanté là-bas 15 personnes et on voulait faire vivre le terrain. On commençait à avoir des jardins, cassis, petites plantations. Problème d'un voisin, on choisit un petit peu. On s'est un peu piqué là depuis par les gens qui venaient d'arriver. je ne citerai personne, ils se reconnaîtront, ils se sont fait piquer un aérogénérateur. Il y a eu quelques petits pétards qui ont pété chez eux. Ils ont poussé le bif jusqu'à mettre les toilettes à côté du puits. C'est pour dire qu'on buvait sur un puits qui était là-haut. Et ça les dérangeait parce que ces messieurs dames ont installé leur jardin. Ils devaient arriver à 5, ils sont arrivés à 25-30. Ils pompaient le puits carrément et on n'avait plus rien. Nous qui étions 15 en dessous, on n'avait pas d'eau de la journée pour pouvoir vivre. On est monté un peu du lait chez eux. Et là, eux, ça ne les gênait pas. Ils ont installé un chiotte à côté du puits. Ils ont installé les douches. Ça permettait, ça ne les gênait pas pour arroser les jardins, mais nous, on n'avait plus d'eau. Ça a vécu un ou deux ans comme ça, puis par problème interne, on a été obligé de quitter. Problème interne au groupe auquel on était, on est un peu parti, on est parti, il y a beaucoup de gens, on a laissé 3 personnes qui posaient problème. Le lieu a bien vécu. Nous aussi, on avait une chèvre et un bouc récupéré, Bibi et Boubou. On a fait vivre aussi un peu le terrain. Puis à un moment, on est parti parce que c'était le ras-le-bol. Mésentente totale avec les gens avec qui on vivait. Le terrain a très très bien vécu.
Oui, je voulais revenir sur l'époque où on a récupéré la chèvrerie, du coup, après que les gens étaient partis, et on est arrivé à une équipe un peu déter. Effectivement, c'était les expulsions, quand les chefs sont partis, tout ça. Et nous, on était une équipe bien déter, à tenir bison futé, en fait. Et vraiment, il y avait le lien entre la chèvrerie qui servait de base de repli à bison. Mais après, on vivait quasiment tous à bison futé, en fait. On était 24 H sur la barricade, dans les petites cabanes autour de la route. Et la chèvrerie, ça nous servait à dormir, à sécher nos chaussures le soir et nos chaussettes autour du poêle qui chauffait rien de la cabane parce qu'elle était juste pleine d'air, quoi. Ouais, ça nous servait à faire de la bouffe et des conneries, ouais, des gâteaux, les petites préparations sympathiques pour les flics. Surtout des trucs qui puaient. On aimait bien les trucs qui puaient. Voilà. Et c'était vraiment quand même un super chouette moment, malgré. Voilà, on s'est vraiment retrouvé aussi avec beaucoup de gens et à repartir sur d'autres choses après, là-bas. Mais du coup, vite fait, ouais, la cuisine, c'était l'ancienne salle de traite, du coup, qu'on avait transformée. On dormait dans les box, dans la paille. On avait tous les box toujours en place et on dormait à deux, en général, dans chaque box, pour se tenir chaud aussi, sous des couches de couettes pour l'hiver.
Derrière toi. Et juste pour raconter, pour si vous voyez, vous n'avez pas l'image derrière votre poste radio, on est de plus en plus nombreux dans le bus, c'est quand même vachement rigolo parce que pour le coup de la chèvrerie, on est sur du 9 ans de cabane, alors il y a vachement plus de gens pour raconter et même des gens qui ne voient pas qui sont l'autre, c'est assez marrant.
Moi je voudrais dire que jusqu'ici, bon alors, moi quand j'ai parlé, je parlais de je sais pas quoi, de printemps, juin, je ne me rappelle plus trop quoi, 2014, donc bon. Et ensuite, bon, il se passe que moi, je suis venue m'installer sur la ZAD. Avant, j'avais été à la Mandragore et puis, sauf qu'il y avait quelqu'un qui s'y était installé quand je suis revenue quelques mois plus tard. Puis de toute façon, plein de gens y avaient été là-bas. Et donc, j'avais pas de lieu et j'étais dans le sleeping des fosses noires. Pendant 4 semaines, j'arrivais pas à trouver une cabane à l'est. C'était horrible. Et je devais quitter la cabane des Fosses Noires. J'avais toujours pas trouvé de cabane et il y a un copain qui m'a proposé qui voulait quitter son collectif et il m'a proposé de rejoindre une équipe qui allait occuper la chèvrerie en fait, qui était vide et délabrée. Enfin, on s'est réunis et on est allé à la chèvrerie, mais il y avait pas mal de trucs à faire avant d'y pouvoir y habiter. Et on commence à préparer et tout. Et puis finalement, on se rend compte que on sera tous pas là pendant l'été. Et on s'est dit, ah non, mais quand on abandonne une cabane pendant l'été, il y a plein de gens de passage qui viennent squatter et qui trashent tout et tout. Tout ce qu'on va construire, ça va être détruit.
Saleté de squatteur.
C'était en 2014, au fait.
Parasite.
C'était au printemps 2014 qu'on pensait ça et tout. On s'est dit, ah non, mais c'est pas la peine d'essayer de lancer un projet dans cette cabane si on n'est pas là pendant l'été. Et voilà. Et donc, notre groupe, il s'est dissous. Il y avait une équipe de gens de Finlande qui était venue nous aider à préparer le chantier et tout. Et ben, en fait, quand nous, on a abandonné, eux et elles surtout, ils sont restés. Et ils ont donné une bonne ambiance, mais pendant peut-être 2 semaines ou je ne sais pas quoi. Et puis finalement, ils sont partis à la Freusière où ils ont aussi mis trop l'ambiance. La chèvrerie était de nouveau vide. Et là, pas longtemps plus tard, il se passe qu'il y a deux frères qui sont d'abord venus tout seuls et qui avaient des chèvres. Et ils sont venus, ils ont habité là. Non, ils n'avaient peut-être pas de chèvres, bref. En tout cas,
on a la suite de l'histoire qui va raconter l'histoire.
Moi, j'ai un petit intermède. C'est le moment donné où la chèvrerie a abandonné. Il y a une annonce qui passe. Il faut aller récupérer ce qu'il y a là-bas parce qu'elle est abandonnée. Et c'est juste du matériel à récupérer, des planches, des meubles, des vitres et tout ça. Et du coup, pendant peut-être 2 semaines, un mois, les gens ils viennent se servir allègrement dans cette cabane. Et à la fin, il ne reste vraiment plus grand-chose. Vraiment, vraiment plus grand chose. Parce que les gens, ils aiment bien récupérer. Et après cette période de 2 semaines, 1 mois, il y a justement les deux frères qui viennent, l'un un âne et un cheval, l'autre un troupeau de chèvres et des jeunes chevreaux. Et ils se sont dit, ah, magnifique, c'est un lieu qui s'appelle la chèvrerie. On connaissait les premiers chèvriers qui étaient dedans. À ce moment-là, eux, ils habitaient à la boîte noire. Et ils sont venus s'installer à la chèvrerie à ce moment-là. Ils sont venus en camion avec leur troupeau, leur cheval et leur âne. Et ils se sont installés, ils ont commencé les travaux, ils ont reviabilisé la chèvrerie, mais c'était le début de l'hiver, alors c'était compliqué parce qu'il fait froid et puis il pleut beaucoup. Et puis, bon, on fait les trucs à la va-vite parce que l'hiver, il arrive.
Pour l'instant qu'on est en 2014, il y a quand même un habitant de la chèvrerie qu'on a oublié.
Oui, Billy the
Cat. Et alors, moi,
Billy the Cat.
Moi. Donc quand on est arrivé la première fois, notre groupe à la chèvrerie et qu'on a regardé partout où est-ce qu'on pouvait dormir, les matelas et tout, c'était vraiment vide. Et sauf qu'il y avait quand même un habitant, c'était c'était Billy, le chat, qui était
le
là.
Le fameux Billy.
Il est très content de voir des gens et très content que des gens viennent passer du temps là-bas.
Où est Billy ?
Et Billy, voilà donc.
Billy est toujours à la chèvrerie. On a reconstruit une toute petite cabane pour lui planquer dans les fourrés. Avec son nouveau compagnon, ils y vivent tranquillement et paisiblement. Leur cabane n'est plus détruite par les flics car elle n'est plus visible par les flics.
En off, on se disait c'est quand même fou parce que c'est impossible de parler que d'un lieu. C'est comme tout à l'heure, pour situer un lieu géographiquement dans l'Est, ben on le situe par rapport aux autres. Et du coup, tout ça est complètement entremêlé. Et on voit bien qu'on a eu plusieurs maisons les unes les autres sur la zone là, et que les maisons ont eu plusieurs groupes d'habitants. Ça, c'est assez taré. Et quand même, faire un petit intermède sur le fait que les enchères montent pendant ce temps-là. On est passé à un pack pour le drone. Voilà. Alors, si vous aussi, vous voulez faire monter les enchères pour qui shoot le drone, voilà. C'est juste pour dire ça en intermède.
Et pour reprendre un peu l'histoire des deux frères avec leur cheval, leur âne et leur troupeau de chèvres et aussi de boucs. Bon, bah, c'est l'hiver, et ils ont fait des réparations de la chèvrerie en deux spies. Et puis le temps passe, l'hiver passe. Il y a des petits qui naissent au printemps et puis la vie fait son cours et ils se disent qu'ils vont peut-être partir. Et avant de partir, ils ont envie de faire les gros travaux de la chèvrerie. Ils ont envie surtout d'enlever le poteau central qui les incommode beaucoup dans leur vie quotidienne. Et pour enlever le poteau central, il fallait refaire toute la charpente. Pour refaire toute la charpente, il fallait aussi refaire tous les murs. Et puis, ils ont refait le sol aussi. Alors, ils ont commencé par défaire la chèvrerie quasi dans son intégralité. Et par ramener des brouettes et des brouettes et des brouettes d'argile pour faire un fest-noz à l'intérieur. Et on a dansé toute une soirée pendant leur anniversaire. Pendant toute une soirée, on a dansé pieds nus sur la sol d'argile et on a fait un sol en terre battue. Et de là a commencé les travaux de la chèvrerie qu'on a connue détruite récemment. Il y avait plein de musique à ce moment-là. Il y a les travaux qui ont duré un mois peut-être pour refaire une chèvrerie un peu potable avec un toit, des murs, un truc très spacieux, très lumineux. Tout plein d'argile et de bois.
Et quand même, qu'on se rende compte, c'est quand même un peu classe de te dire « Ah, je vais partir du lieu où j'habite, j'aurais qu'à avant le faire encore plus grand, encore plus clean, que des gens puissent y dormir parce que moi, je dors dans un camion. Wow » Waouh ! D'habitude, les gens, ils partent avant, après, c'est trashos et tout, il y a des trucs partout, c'est tout pourri et tout. Waouh, je trouve ça trop ouf de te dire, tu vois, c'est comme ça que tu tiens un lieu, je sais pas quoi.
Et du coup, le lieu devient de plus en plus collectif. On finit par pouvoir dormir dans le sleeping parce qu'il est trop confortable. Et quand on se lève le matin, on voit le soleil se lever. Et ça donne des lumières de ouf. Et ça donne des journées de malade après quand tu vois les plus beaux levers de soleil au réveil tous les jours. Bon.
Les copains-copines, quand ils sont partis après, là, du coup, il y a eu un autre crew de potes qui est arrivé. Qui était un peu, on venait comme de la zone non motorisée. La radicalité, la forêt, machin, tout ça là. Et c'était plusieurs lieux. On avait pas mal vécu au port. Et puis on était partis. On avait un peu des lieux à droite et gauche, surtout des plateformes d'ailleurs. On y reviendra. Et voilà. Et on s'est mis là un peu. Et c'était à peu près. Enfin, comment? J'ai l'impression que c'était pas trop longtemps avant 2016, le moment des pseudo-expulsion avec toute la tension qui monte et tout, et que ça a pas mal constitué ce crew-là à ce moment-là. Qui a été un large crew, très mouvant, hein, comme tous les crews, j'imagine, là, avec plein de gens qui viennent, qui reviennent, qui s'en vont, qui tout ça, ça. Et que, du coup, ça changeait un peu le lieu parce qu'il n'y avait plus de chèvres, ce qui déjà fait une chèvrerie sans chèvres. Alors j'allais dire, on a planté des fruitiers, mais ça, c'est rigolo parce que, pareil, on a planté des fruitiers, mais à un moment on a fait, mais ça c'est du pommier, mais c'est sauvage. Et non, en fait, c'est des potes qui ont planté des fruitiers plusieurs années avant, et puis les arbres ont repoussé autour, le pommier est mort, mais le porte-greffe est reparti. Ce qui fait que du coup, il y avait déjà. Enfin bref. Bref, on retrouve des espèces de petits bouts chaque fois, quoi. Et puis surtout qu'il y avait beaucoup plus de place de sleeping dans la chèvrerie, et du coup, ça faisait vachement plus un truc de. Bah ouais, de beaucoup d'accueil possible, quoi. Parce qu'avant, sinon, il y avait un peu de place et puis des camions autour. Là, d'un coup, il y avait, je sais pas, quoi, 12, ah oui, 12, 14 places, un truc comme ça. 12 places, je sais pas, beaucoup. Bref, plus que 10, donc beaucoup.
C'était la maison fixe de beaucoup de gens ou pas?
Je crois que c'était la maison fixe de beaucoup de gens de passage. Et que les gens qui y vivaient depuis pas mal de temps, ils avaient d'autres cabanes dans lesquelles ils dormaient, mais ils vivaient à la chèvrerie. Je sais pas si je suis claire.
genre le lieu commun et puis le lieu un peu plus de repos personnel, là où tu retournes dans ta forêt le soir, te coucher avec les chouettes.
Ça, c'est quelques mois avant l'expulsion, on a eu des grands chantiers à la chèvrerie de Terre-Paille. On voulait refaire tous les murs, refaire un truc à neuf. Et je sais pas, on avait eu envie de refaire du crépi de plein de couleurs et de faire des sculptures dans les murs. Et du coup, ça avait donné des trucs assez ouf, de tourbillons, de dragons, de visages un peu démoniaques ou non, de couleurs qui vont dans tous les sens et qui sont couleur terre et blanc, ocre, rose, bleu. Un chat sculpté à l'entrée sur une des poutres et aussi peint derrière sur l'atelier. Des gargouilles.
À savoir que l'enduit, à la base, ça devait pas partir comme ça, quoi. Ça sentait un peu le chantier. Bon, allez, il faut faire un enduit, alors on fait ça bien, machin, tout ça. Et puis, ouais, je sais pas à quel moment c'est arrivé cette histoire de l'argile blanche à la mine. Et après, toi, t'as dit, ouais, mais il y a de la grise à la Huguette, puis il y a de la rose à je sais pas où, et on s'est retrouvé avec toutes les couleurs.
La rose est au rosier. Ça fait des très belles images.
Non, il y a une meilleure vidéo.
C'est ça, c'est que, peut-être pour préciser, il y a une vidéo qui s'appelle La chèvrerie ne tombera pas, qui est en ligne sur YouTube et dont il y a un lien sur Zen Nadir, et il y a un article qui s'appelle Les cornes de la chèvre et qui est aussi trouvable dans les témoignages sur Zen Nadir.
Et pour parler des expulsions, le premier jour des expulsions, ils sont arrivés à grand renfort de flics par la route de Bison Futé.
Bah, y a eu un truc, pour s'en compte, c'est très au sud sur la zone. Et du coup, c'est assez vite comme une sorte de première ligne ou quoi. Et je crois que dans les deux premières heures, il y a eu trois infotalkies qui disaient « ça y est, la chèvrerie est tombée ». Et que non. Du coup, je crois que mes premières heures autour de la chèvrerie, ça a été un peu ce truc-là de capter s'ils avaient pris le terrain ou pas et ce truc-là. Il y a eu un peu un truc bizarre là de... Petit à petit, on se faisait plus ou moins encercler au sens où ils tenaient les routes de plus en plus, toutes les routes autour. Et que quand ils ont pris les sans-noms, du coup, ils étaient à notre nord. Et il y a eu une espèce d'attente.
Attends, je vais t'interrompre parce qu'il y a quand même la petite anecdote, la gendarmerie nationale et les chemins de la ZAD. C'est que ça a été assez interminable. On attendait derrière nos barricades et en fait, ils sont passés par le chemin de la Frénolière qu'on pensait impraticable. Et à un moment, on entend la barricade. Ah ben merde, ils sont en train de monter avec les camions bâchés. Et on s'est dit, ça y est, c'est fini. C'est la chèvrerie, elle va être prise là dans la demi-heure, c'est fini. Et en fait, ils ont fait passer un camion bâché, deux camions bâchés par ce chemin-là. Et derrière, il y avait l'espèce de gros master bleu avec le toit blanc, le camion qui est passé juste derrière et qui s'est juste littéralement vautré dans la boue et qui est resté coincé là pendant peut-être une heure et demie, un truc comme ça, deux heures, interminable. Nous, on était à notre pauvre barricade face au camion bâché et c'était assez ridicule. Et je pense que ouais, la chèvrerie doit peut-être son 24 heures de bonus pour ça.
Ouais, et du coup, ce qu'il disait, c'est que du coup, vu qu'il s'est embourbé, ça a fait une espèce d'attente super longue où on était quelques-uns et quelques-unes à attendre derrière les barricades en mode bon, on a tout le plan de prêt et puis on attend juste qu'ils arrivent et puis ça n'arrive pas et puis on attend qu'ils arrivent et puis ça n'arrive pas et puis on attend. Et c'était très très bizarre, c'était très 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 long. C'était vraiment super long. Et puis. Il y a eu ce truc qu'à un moment, on s'est un peu divisé en deux groupes parce qu'on voulait qu'il y ait quelques personnes qui puissent sortir au cas où et qu'il fallait exfiltrer là. Et puis là, il y a eu un espèce de schmilblick magique qui était assez incroyable comme situation où il y avait des potes qui étaient restés et qui tenaient à la fois les barricades et qui étaient montés sur le toit. Et que à ce moment-là, les flics se sont dit « Ah ah, mais c'est le moment !» Et ils ont à la fois quitté le carrefour de la mine, c'est-à-dire leurs arrières, et ramené les gendarmes qui étaient au carrefour de la mine devant la chèvrerie. Et au même moment où ils faisaient ça, où je crois à la fin de leur manœuvre pile poil, là, on a été comme une vingtaine, trentaine à débarquer par le jardin, par les tout petits chemins que nous on connaît bien et qu'eux ils connaissent pas parce que c'est de la friche, et qu'eux ils voient juste des saules alors qu'il y a plein de petits chemins. Et ça a fait une espèce de, je sais pas...
Mouvement de panique dans la gendarmerie. Ah, juste avant, ils venaient de péter la grosse barricade de dragons. Et D'ailleurs, je crois, je sais pas qui a participé à ce truc-là, mais c'était très costaud puisqu'ils se sont mis d'abord à 10 en mode de, on est trop des, voilà, des, on est trop fort. Et en fait, bah, ils ont sorti la tronco à la fin, quoi, pour la couper. Et juste après ça, ouais, enfin, nous, on était dans le champ parce que, bah, on voulait pas se faire choper par les flics. On voit la masse de keufs qui commence à se reculer en mode panique. Et on ne comprend pas pourquoi. Et il y a quoi, 60 personnes, vous arriviez de l'agré, c'est ça, par les chemins? Enfin, moi, je n'ai pas tout compris. Et pourquoi est-ce que les keufs comme ça reculaient d'un coup? Et c'est là qu'on a vu tout le monde arriver, quoi.
C'est qu'il y avait des gens qui venaient par les chemins de l'agré, il y avait des gens qui avaient coupé à travers le jardin, il y avait des gens qui avaient coupé par le nord. Et ah, on a coupé nos arrières. Et ben oui, il ne fallait pas être si confiant.
C'est ça.
Et du coup, là, ensuite, ça a fait une espèce de session où il y avait comme... 80 flics et à un moment il y a eu comme 90 personnes en face d'eux au niveau de la chèvrerie. C'était hyper bizarre où tu vois le lieu où tu as vécu depuis 2 ans qui devient une scène d'affrontement avec des caillasses, des lacrymos, des Glief 4, un petit mollo. Et puis toi tu commences à faire du café parce que finalement la maison elle est là avec le gaz tourne. Ça fait un espèce de truc vraiment trop chelou. Mais ça a duré, je crois, je sais pas, 2 heures, 3 heures comme ça encore. Non, moi plus. Ah ouais, ah ouais,
ah ouais, c'était. Ouais, c'est...
Il y a même quelqu'un qui a eu le temps de faire la sieste sur le toit et de s'est vraiment endormi.
Et on nous a même amené du petit-déj avec du muesli et de la confiture sur le toit tellement c'était long. Du coup, non, c'était vraiment long. Et au point qu'ils ont fini par juste repartir bredouille de leur journée, quoi.
Et les gens, ils
ont fait des barricades. C'est ça. C'est qu'en fait, ils étaient comme des cons. Bon, bah voilà, on tenait l'espace. Il y avait plein de gens qui restaient déterres en face d'eux. Il y avait du coup des gens qui continuaient à vivre en face d'eux. Et puis... visiblement, ils n'étaient pas en assez bonne passe là pour juste venir détruire le lieu et virer tous les gens qui étaient dessus. Ou en tout cas, c'est l'histoire qu'on a aimé se dire. Mais de fait, ils sont repartis, quoi. Ils n'ont pas détruit la chèvrerie ce jour-là, contrairement à ce que plein de gens disaient. La chèvrerie n'est pas tombée le 9 avril.
Et dès qu'ils sont partis, on a commencé à refaire la barricade qu'ils avaient tronçonnée et à remettre les tôles debout, à remettre le tronc sur la route. À une quinzaine de personnes, on a remis le camion sur ses roues qu'ils avaient foutu dans le fossé. On a refait les défenses, quoi. Puis on est allé manger dans la chèvre et se reposer un peu. On était une vingtaine à l'intérieur et on causait de tout ça. Là. C'était assez ouf.
C'était complètement irréel, quoi. Moi, je me souviens, quand on a vu le truc, on s'est dit, bon, bah là, scénario classique, 80 Schmitt autour de la chèvrerie, pelleteuse, et puis boum. Et vraiment, quand 5 minutes après, il y a tout le monde qui est arrivé, et qu'après, ça a été l'émeute devant la chèvrerie. Il y a eu une session, tout le monde sauf du matos. Donc, on a retrouvé du matos de la chèvrerie, entre la chèvrerie et l'agré, partout sur les chemins.
On en trouve encore.
C'est exactement ça. Et c'était complètement irréel, quoi.
Le deuxième jour, ils sont arrivés tôt. Ils sont arrivés très tôt.
Ouais, peut-être 5 heures du mat, je crois. Ça a commencé par une fausse alerte avec des journalistes qui traversent le champ de nuit avec une lampe frontale, avec des maglites, et puis qui ne vous répondent pas quand vous demandez ami ou ennemi. Donc voilà. Enfin bref, et après ce moment-là, et ben, là, ils ont réencerclé la chèvrerie. Et là, il y avait 2 personnes sur le toit et pas mal de personnes autour. Et ça a été très long, bah, très éprouvant aussi, parce que à chaque fois qu'il se passait quelque chose, tous les GM lançaient des charges et des lacrymogènes dans tous les sens. Donc on pouvait assister quasiment à rien, quoi. Il y a le copain qui s'est fait interpeller sur le toit, ça a été ultra violent.
Ils ont été le chercher sur le toit directement et c'était pas qu'une interpellation. Ils l'ont tiré de force par les pieds et lui il s'est accroché au tôle, il s'est découpé les tendons et les doigts à moitié. Et ils l'ont embarqué directement comme ça, on n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Il y a juste la copine qui était avec lui sur le toit qui savait ce qui s'était passé et qui était là après devant la ligne de flics à demander mais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, dites-moi où il est, vous avez l'obligation de me répondre, demandez à votre supérieur et tout. Et pendant 5-10 minutes, ils n'ont pas voulu répondre, ils ne disaient pas un mot, ils se regardaient les uns les autres. Et il y avait tout plein de journalistes qui filmaient la scène, là, avare d'images, je crois. Et au bout d'un moment, il y en a un qui dit « Ah, c'est les pompiers qui l'ont emmené, il doit être sur la route de l'hôpital. » Et comment ça, il doit être sur la route, mais vous devez savoir s'il y est déjà ou pas. Et bon. Pourquoi l'hôpital? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle ne savait même pas qu'est-ce qu'il avait. Est-ce que vous l'avez tabassé? Qu'est-ce qu'il a?
S'il avait officiellement une coupure au doigt.
68 points de suture sur les deux mains, deux tendons coupés. Et là, il vient d'enlever ses prothèses et il en a encore pour 3-4 mois de rééducation. Et il gagne sa vie en jouant de la guitare, quoi. Merci du cadeau.
Quand même, pour l'anecdote, entre guillemets, de ce que j'ai compris, c'est que les flics l'ont emmené au CHU. Là, il s'est fait ausculter et les gens du CHU se sont rendus compte que c'était grave. Du coup, lui ont dit, il faut que vous alliez à la clinique de la main. Et là, quand il est sorti, qu'il a dit ça aux flics, les flics l'ont laissé là. Ils l'ont laissé là en mode, t'as qu'à te démerder pour aller à la clinique de la main, quoi.
Il y a été à pied.
C'est ça. Bon, faut savoir que du CHU à la clinique de la main, il y a bien 3/4 d'heure de marche, quoi. Large.
Puis il y a la machine qui est arrivée. Ça a bien pris 3/4 d'heure, je crois, avant qu'elle arrive. Et quand elle est arrivée, elle a mis 4 coups de godet et c'était fini. Après, on n'a pas pu y retourner vraiment, aller voir les décombres avant le soir. Et ouais. Je sais pas, on s'est retrouvés un peu tous les habitants à aller voir un peu ce qu'on pouvait récupérer, ce qui s'était passé. Et on s'est rendu compte d'un truc incroyable. La plupart des vitres étaient intactes. La bâche, elle était nickel, pas un trou. Genre, la plupart des choses pouvaient être récupérées. Du coup, ça nous a un peu donné vachement d'espoir. On s'est dit, bon, bah, c'est bon, on récupère tout. Et puis, c'est reparti, quoi. On met tout ça de côté. On attend que le lendemain, peut-être, ils vont venir ramasser les gravats. Et en fait, on aura tout mis de côté et on pourra reconstruire ce qu'on voudra.
C'est plutôt, moi, je trouve que c'était un moment cool parce qu'il y avait, plein de gens qui passaient. Et qui voyaient ça et qui ne savaient pas trop comment aider. Et c'était... Je trouve que les gens ils étaient hyper attentionnés à respecter les émotions, les sentiments, les trucs complètement irrationnels, parce que tu tiens un petit objet qui est coincé au fond et qu'il faut enlever un mur de 1,5 tonne pour le trouver. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, là. Il y avait une espèce de respect de ça qui était trop chouette. Et je trouve, enfin, je voulais bien remercier un peu tous les gens qui étaient venus, qui avaient fait ça, là, d'aider à déblayer, d'aider à sortir les choses, à les amener à d'autres lieux, à les... C'était trop cool, quoi. On a fait un tas pour reconstruire, un tas sentimental et un gros tas barricade. C'était bien. Et voilà, et puis il y a eu un peu tout le temps du monde pendant ce moment de déblayage, il y a eu tout le temps des barricades tenues là-bas, c'était chouette. Et puis ensuite, il y a eu, tu voudrais raconter, toi, le dernier petit bout
La rechèvrerie. En fait, là, c'est dommage, la copine n'est pas là, mais la rechèvrerie... En fait, moi, on avait déjà discuté que ouais, le dimanche, on ferait quelque chose, etc. Et en fait, je ne sais même plus quel jour c'était. Enfin bref, c'est samedi peut-être, ou le vendredi. Ouais, c'était le samedi. Et en fait, le samedi, il y avait une des cohabitantes qui s'est dit « Ah bon, on commence le truc, machin, tout ça. » Et moi, je n'étais pas du tout au courant, j'étais complètement ailleurs. Et... Je me suis dit, tiens, je vais passer à Chèvrerie, machin, tout ça. Et je suis arrivé, il y avait littéralement une cabane avec des poteaux de 4 mètres de haut en train d'être construit. Et c'était assez ouf. Il y avait plein de gens que je ne connaissais pas et qui étaient en train de reconstruire. Et c'était assez dingue.
La nouvelle structure, elle avait quasiment la même forme que l'ancienne. Elle était juste un peu plus petite. Et moi, quand je suis arrivé le soir, il y avait les deux chats qui étaient dans la cabane en train de droupiller, un sur la table, un sur l'étagère, avec des couvertures. C'était magnifique, c'était magique. Ça m'a fait beaucoup de baume au cœur. Dès le lundi, ils sont arrivés, ils l'ont détruit avec un gros bulldozer et beaucoup de forces de police.
Je pense que ça va continuer, si vous voulez mon avis.
On va bientôt reconstruire.
La menace plane. On se rend compte qu'on a forcément duré un peu plus sur ce lieu qu'à un peu plus d'années de vie et du coup, ben, tant mieux. Mais je me dis peut-être que vous avez envie de terminer sur une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué ou quelque chose que l'un et l'une d'entre vous a envie de raconter.
Ah, moi j'ai une anecdote, c'est celle de la serre de la Chèvrerie qui n'avait pas supporté l'hiver. C'était une ruine et ils sont quand même allés en tractopelle défoncer tout le jardin pour enlever une bâche. Moi, je trouve ça vraiment de l'acharnement inadmissible.
Il y a quelqu'un en off qui a dit le dernier mafé. Donc on peut imaginer qu'il y a eu des très bons mafés à la Chèvrerie.
Oui,
Voilà. Eh bien, merci.
Merci.
C'est cool pour ces témoignages.
Merci beaucoup.